Ils ont réussi à prendre à peu près 200 otages. Et il en reste encore une cinquantaine, dont un particulièrement important. Le chef de la police de Zamboanga a été capturé, kidnappé. Et donc l'objectif, c'est de monnayer, entre guillemets, le chef pour pouvoir rentrer chez eux, en fait. Là, ils n'ont plus aucune chance de pouvoir atteindre le centre-ville de Zamboanga. Donc le principal objectif pour le chef du MNLF local, c'est de renvoyer les membres de son groupe sur Sulu et sur Basilane.
On imagine bien que ce n'était pas leur objectif initial. Est-ce qu'on peut juste un peu expliquer qui sont ces rebelles armés et qu'est-ce qu'ils voulaient exactement à l'origine?
Il y a donc environ 200 à 300 hommes qui sont partis, qui font partie en fait du Moro National Liberation Front, qui est le groupe musulman révolutionnaire qui demandait dans les années 70 l'indépendance de Mindanao et de Palawan. En 1996, le chef de ce groupe, Nur Misauri, a signé un traité de paix avec le gouvernement Ramos. Mais il y a eu, en fait, à partir de ce moment-là, plusieurs groupes qui se sont scindés, qui se sont séparés du MNLF. Donc il y a maintenant le MNLF pro-Misauri, donc c'est 200 ou 300 hommes qui ont envahi en quelque sorte la péninsule de Zamboanga, et d'autres membres du MNLF qui ont formé leur propre groupe, qui eux se sont rangés du côté du gouvernement et ils sont prêts à continuer à négocier avec le gouvernement. Et ils essaient en fait de faire revenir Nur Misauri dans les négociations.
Donc en fait aujourd'hui on assiste un peu au barreau d'honneur du dernier groupe indépendantiste armé.
C'est pas vraiment le dernier groupe puisqu'en fait le MALF, qui est donc le mouvement qui est en cours de négociation avec le gouvernement, a aussi des groupes qui se sont séparés de lui. Le BIF, le Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, il est de la mouvance islamique radicale, et demande en fait l'indépendance de Mindanao, de Sulu et de Palawan, des Philippines. Il continue la lutte armée, alors que le groupe principal, le MALF, est donc en négociation, et demande que l'autonomie en fait de la région musulmane.
Mais du coup, est-ce qu'il y a des liens entre le BIF et ces 200-300 hommes menés par Nur Misauri qui voulaient prendre Zamboanga?
En fait, on sait depuis 2011 qu'il y a une sorte d'alliance entre ces deux groupes pour combattre l'accord de paix qui est en cours entre les MALF et le gouvernement philippin. En fait, on s'aperçoit que depuis le mois d'octobre 2012, date de la signature de l'accord cadre entre le MALF et le gouvernement, il y a une espèce de schéma qui s'est développé pendant toute l'année 2013.
Donc au moment où le gouvernement d'Aquino et les anciens rebelles du MLF négociaient les annexes, c'est-à-dire les détails, les modalités de l'accord cadre de paix.
Oui, et à chaque annexe, il y a eu des troubles soit liés au MNLF, soit liés au BIF, soit aux deux. Par exemple, en février 2013, la première annexe a été négociée et signée à Kuala Lumpur. Et au même moment, le sultan de Sulu, Jamalul Kiram III, envahissait avec 300 hommes l'État de Sabah, qui actuellement appartient à la Malaisie, mais qui est revendiqué par les Philippines et par le sultanat de Sulu. Ça s'est terminé dans un bain de sang, mais c'était le premier essai en fait pour essayer de saboter l'accord de paix. Ensuite, au mois de juillet dernier, il y a eu la signature de la deuxième annexe de l'accord cadre sur le partage des ressources naturelles. Et là, il y a eu toute une série d'attentats sur l'île de Mindanao. Et ensuite, le 9 septembre, au moment où le gouvernement philippin et le MALF allaient négocier la troisième annexe sur le partage du pouvoir entre la région autonome et l'État philippin, il y a eu donc ce coup d'éclat sur la péninsule de Zamboanga.
Aujourd'hui, en tout cas, on voit une volonté claire du gouvernement Aquino d'en finir. Donc, il y a l'armée à terre, les frappes aériennes depuis lundi. Quel problème ça pose, en fait, pour le gouvernement? C'est une question de souveraineté, une question d'autorité qu'on remet en cause?
C'est une question d'autorité et de souveraineté. Et en même temps, le gouvernement philippin est extrêmement prudent dans ce domaine-là, puisque deux mois après l'accession au pouvoir de Benigno Aquino, il y a eu une prise d'otage au mois d'août 2010 d'un car qui comprenait des touristes de Hong Kong. L'affaire a été mal gérée et ça s'est terminé dans un bain de sang. Le gouvernement Aquino avait été violemment attaqué par les médias nationaux et internationaux sur la gestion de crise. Et donc l'objectif, c'est d'éviter à nouveau la même chose sur des civils pris en otage, cette fois-ci sur Zamboanga.
Aujourd'hui, la plupart des chefs religieux demandent justement à ce qu'on évite la violence. Mais certains analystes, eux, redoutent ou en tout cas évoquent une possible guerre civile à Mindanao, qui est, on le rappelle, un peu l'enclave musulmane dans un pays à majorité catholique.
C'est une hypothèse, mais on risque plus d'avoir une guerre entre groupes musulmans qu'une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Le MILF est prêt en fait à défendre jusqu'au bout son accord avec le gouvernement philippin. Donc il y a un risque en fait que certaines factions du MNLF pro-Misuari essaient en fait de prendre le contrôle de Sulu. C'est à peu près l'essentiel du bastion du MNLF pro-Misuari sur Sulu et certains villages de Basilan. Mais sur le reste de Mindanao, ce sont des factions MNLF anti-Misuari mais pro-gouvernementales et qui ont promis en fait de se ranger du côté du gouvernement et du MILF. Donc le risque est